L'année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait déjà été un grand plaisir quand, au-dessous de la petite ligne du violon, mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée, comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l'harmonie, il ne savait lui-même, qui passait, et qui lui avait ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de roses. Circulant dans l'air humide du soir, ont la propriété de dilater nos narines. D'un rythme lent, elle le dirigeait, ici d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, inintelligible et précis. Et tout d'un coup, au point où elle était arrivée, et d'où il se prépara à la suivre, après une pause d'un instant, brusquement elle changeait de direction et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l'entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis, elle disparut. Il souhaita passionnément la revoir une troisième fois. Et elle reparut, en effet, mais sans lui parler plus clairement, en lui causant même une volupté moins profonde. Mais rentré chez lui, il eut besoin d'elle. Il était comme un homme dans la vie de qui une passante qu'il a aperçue un moment vient de faire entrer l'image d'une beauté nouvelle qui donne à sa propre sensibilité une valeur plus grande, sans qu'il sache seulement s'il pourra revoir jamais celle qu'il aime déjà et dont il ignore jusqu'au nom.
La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douleur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
La musique, ici en tout cas, enfin la petite phrase de Vinteuil, c'est vraiment un art de l'instant. Et ce qu'on voit bien dans ce texte, c'est que la première écoute est très importante parce qu'après, quand Swann veut réécouter une deuxième fois, on sent que cette deuxième écoute, justement ce qu'il voulait conjurer, ça lui confirme, c'est l'irréversibilité.
C'est l'irréversibilité, absolument. De telle sorte que la deuxième écoute atténue d'ailleurs le privilège de la première et que la troisième dilue encore la joie qu'il a ressentie dans l'immédiat. C'est la petite Madeleine, hein, la petite phrase. C'est exactement la même affaire. Quand le narrateur goûte la petite Madeleine qu'il a laissée s'amollir dans sa cuillère, donc trempée de thé, l'émotion qu'il éprouve la première fois est extraordinairement violente,
mais elle est parfaitement incompréhensible, indicible. Il ne peut pas la nommer, il n'arrive pas du tout à la désigner. L'émotion est d'autant plus violente qu'il n'a pas les mots pour la dire. Et plus elle se concrétise littéralement, matérialise, incarne, mesure, diagrammatise, plus il peut la nommer, moins il l'éprouve, moins il la ressent. Donc c'est un jeu d'équilibre entre l'être et le savoir. L'expérience de la petite Madeleine comme l'expérience de la petite phrase. Quand la petite phrase surgit, Swann l'entend pour la première fois, il est totalement bouleversé, il ne sait pas pourquoi. Et à chaque fois que ça lui arrive, il y a toujours une émotion qui précède la raison qu'elle se donne ensuite. On comprend d'ailleurs de cette manière que l'amour ne se donne des causes qu'après coup. C'est bien la raison pour laquelle Swann aime une femme qui n'est pas faite pour lui, comme il le dit, qui n'est pas son genre. Et la petite phrase, l'apparition de la petite phrase, comme la petite Madeleine, raconte l'histoire d'une émotion qui précède les causes qu'elle se trouve ensuite, après coup. L'autre chose intéressante dans ce passage-là, je crois, je ne sais pas ce que vous en pensez, Paola, c'est le fait que là, on soit dans un dialogue entre un piano et un violon. Et on ne sait pas, dans le texte de Proust, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi, moi, le rondeau de la sonate pour violon et piano de Beethoven, c'est qu'on ne sait pas, quand on lit le texte de Proust, si vous voulez, si la petite phrase est le propre du piano ou du violon. On ne sait pas où est la petite phrase, en fait. On ne sait pas qui interprète la petite phrase. Alors, ils la reprennent, ils se l'empruntent. De temps en temps, le piano devient l'espèce de déguisement, c'est-à-dire la cascade au fond derrière laquelle la petite promeneuse se fait jour. De temps en temps, c'est le violon qui recouvre les petites notes séparées, différentielles du piano. Ils échangent les rôles, en réalité, là-dedans. Ils sont tour à tour les interprètes de cette petite phrase qui, vous l'avez bien dit, est un témoignage de l'irréversible, de l'irréversibilité des choses. Elle est le propre, disons qu'elle qualifie l'éternité de ce qui ne dure pas. Et c'est le propre de l'art, c'est le propre de toute la recherche du temps perdu. Dans la recherche du temps perdu, le trajet qui consiste à passer du constat que le monde n'est pas à la hauteur de l'idée qu'on s'en fait, à l'enchantement face à ce monde qui n'est que lui-même, ce passage-là suppose la conversion de l'esprit du narrateur qui fait de lui au départ un enfant plein d'espoir et ensuite un artiste qui a remplacé l'imagination et l'espoir par la sensibilité, c'est-à-dire par l'aptitude à éprouver ce qu'il sent et à éterniser ses propres sensations. Or, la petite phrase, comme les textes de Bergotte, comme les tableaux d'Elstir, ce sont les trois formes d'art qui sont représentées par trois artistes dans la recherche du temps perdu, l'écrivain Bergotte, le peintre Elstir et le musicien Vinteuil. Ces trois formes d'art oriente l'esprit, le cœur et l'âme du narrateur vers le sentiment que l'éternité se loge paradoxalement à l'intérieur de ce qui ne dure pas. Le paradoxe d'ailleurs, c'est que des trois artistes, celui qui est le moins artiste, c'est manifestement Bergotte. C'est l'écrivain, au fond, qui a le moins de mérite aux yeux du narrateur. En tout cas, c'est celui dont il fait en définitive le moins de cas de l'œuvre. Mais ça c'est une autre histoire. Pour en revenir à la petite phrase, Paola, le mystère de cette petite phrase qui hante la recherche, c'est qu'elle exprime un milliard de trucs. Je m'étais amusé à relever toutes les métaphores que cette petite phrase exprime, tout ce qu'elle dit. Elle dit, on l'a entendu, la mauve agitation des flots que bémolise le clair de lune. Elle raconte l'histoire d'une passante dont celui qui la croise ignore où elle fuit. C'est pour ça que j'ai proposé à nos auditeurs le texte de Baudelaire sur la musique de Beethoven. Elle raconte à un moment l'arc-en-ciel qui éclate en couleurs avant de s'éteindre. Elle raconte le décalage entre un amour et les qualités objectives d'une femme ou d'un homme qu'il prend pour souffre-douleur. Elle raconte aussi les mille petits baisers que les amants se donnent en riant. Toutes ces images, on va les entendre dans cette émission. Elle raconte la dilution des soucis matériels en une réalité supérieure aux choses concrètes. Elle raconte la lumière d'une lampe qui efface soudain jusqu'au souvenir de l'obscurité, les becs de gaz qu'on éteint boulevard des Italiens, la trace indélébile de la sécheresse de la vie. Et il y en a d'autres. Hein. Mais surtout, la question qui se pose, c'est comment cinq notes parviennent-elles à dire tellement de choses? Comment, à quelle grâce, quel malentendu, une mélodie de cinq notes doit-elle d'être à la fois si précise et tellement vaste? Comment une phrase sans mots devient le langage commun de la tristesse, de l'amour, de la joie? Alors, vous avez l'hypothèse faible qui est de dire que c'est parce que la petite phrase est comme une sorte d'ectoplasme qui, parce qu'elle est inconsistante, épouse la forme de l'émotion qui l'accompagne. Un peu comme un vêtement de ville, vous savez, si vous repassez bien un vêtement de ville, il conviendra aussi à une soirée chic, ou mondanité par exemple, mondanité du narrateur. Une telle hypothèse réduirait la petite phrase à un ornement, c'est-à-dire effraie de Vinteuil à un pianiste de bar, si vous voulez. À un ornement, ou pire d'ailleurs, à une consolation. L'autre hypothèse, hypothèse haute, c'est de considérer que cette petite phrase parle à mots couverts une langue secrète, dont l'acuité tient précisément à son caractère évasif, et qui devient immatérielle à mesure qu'elle s'incarne, à la manière dont un peu d'abstraction nous éloigne du monde, mais beaucoup nous y ramène. Et ça, c'est la deuxième hypothèse. C'est l'hypothèse qui reçoit ma faveur et qui, me semble-t-il, est illustrée par ces trois adjectifs, noble, inintelligible et précis, pour parler de la petite phrase.
Et c'est ça, le paradoxe, c'est que, enfin, ça, en tout cas, elle m'a paru à la fois, elle est toujours très intime et inaccessible.
Tout à fait. Elle est aussi inaccessible que notre intimité. Rien n'est plus loin de nous que nous-mêmes. Rien n'est plus loin de nous, aucun voyage n'est plus aventureux que le voyage immobile qui nous reconduit à l'intérieur même de nous-mêmes, si vous voulez, en cet autre qui repose en nous, dont le narrateur a l'intuition quand il regarde Albertine dormir, et où pour une fois, au lieu de se désoler qu'elle accède à l'infini et qu'elle lui échappe, il se réjouit tout simplement qu'elle soit là, dans son altérité. L'intimité, c'est le Graal de l'écrivain. C'est le Graal de l'écrivain, c'est le Graal de l'individu, et la meilleure façon de ne pas y parvenir, c'est l'introspection. C'est en cela qu'il n'y a pas d'introspection dans La recherche du temps perdu. Ce texte qui est écrit à la première personne n'est pas un texte d'introspection. Ça n'est pas un texte où le narrateur se cherche lui-même. Ça n'est pas lui qu'il cherche, c'est l'autre qu'il porte en lui. Il y a un passage comme ça dans lequel le narrateur parle justement d'un voyage immobile, décrit les artistes comme les habitants en exil d'une patrie perdue. Or cette patrie perdue, c'est quoi? C'est la nôtre. C'est notre monde. Mais c'est notre monde dépouillé des illusions que le moi y a déposées pour supporter d'y vivre. Et le narrateur dit ceci: le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux. De voir l'univers avec les yeux d'un autre. Ce qui n'est pas du tout la même chose d'ailleurs. De 100 autres. De voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. Et cela, nous le pouvons avec un Elstir, avec un Vinteuil. Il cite pas Bergotte. Avec leurs pareils, nous volons vraiment d'étoile en étoile. Et ce voyage, qui est le plus aventureux de tous, ce voyage immobile, est exactement le voyage que fait Swann à chaque fois qu'il entend la petite phrase et que le narrateur fait à sa suite quand lui-même entend cette petite phrase qui, comme pour Swann, devient donc, on l'a dit tout à l'heure, l'hymne national de son amour.